France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On le sait désormais, c'est officiel et chiffré par la dernière enquête scientifique dont nous parlons dans ce podcast, Contexte des sexualités en France. La proportion d'hommes pratiquant le cunnilingus a augmenté de façon significative en France ces 30 dernières années. Elle est passée de 77,8% en 1992, ce qui est déjà pas mal, à 87,7% en 2023. C'est peut-être un détail pour vous, mais ce que ça veut dire, c'est que les hommes s'intéressent davantage au plaisir des femmes qu'avant. Ils découvrent leur corps, et certains, on le voyait dans l'épisode sur les premières fois, situent mieux le clitoris, lequel, je le précise, n'est toujours pas systématiquement représenté à l'intérieur des manuels scolaires sur la sexualité. Pendant ce temps, d'autres hommes ont cessé de s'obstiner à trouver le point G après y avoir passé des années, le déclarant un truc de boomer. Enfin, on pourrait aussi résumer cet épisode avec une phrase prononcée par Guillaume, le deuxième personnage que vous allez entendre, et qui dit avec beaucoup de poésie « J'ai découvert qu'il y avait quelqu'un au bout de ma queue ». Des hommes à la recherche du plaisir féminin, voici deux récits par Élodie Font et Sophie Simoneau.
Je m'appelle Jordan, j'ai bientôt 41 ans. Je suis à la base développeur dans l'informatique parce que je suis actuellement au chômage. J'ai une épouse et un petit enfant de 4 ans qui va à l'école et que j'aime beaucoup. Je pense que mon entrée dans la sexualité, c'est avec le film « J'ai épousé une extraterrestre » avec Dan Aykroyd et Kim Basinger. Dedans, Kim Basinger, à un moment donné, qui essaye de séduire Dan Aykroyd, qui est un espèce de scientifique. Voilà. Et je pense que l'entrée dans la pièce de Kim Basinger à ce moment-là, c'est le premier moment où je m'aperçois que j'ai une érection et ça me fait du bien. Et après ça, il y a les premiers essais de masturbation. En gros, c'est une période où j'ai le pénis qui n'est pas décaloté. Et on me parle d'aller voir un médecin pour le décaloter, ce que je veux surtout pas, parce qu'il est hors de question qu'on vienne s'amuser et toucher à mon pénis de cette façon. En plus, on me dit que ça peut faire mal, donc vraiment, c'est le truc que je vis un peu comme un trauma. Et un jour, je suis sous la douche, j'ai une érection, et je m'aperçois qu'en me caressant, non seulement ça me décalote le pénis, mais en plus de ça, ça me fait du bien. Donc je vais jusqu'au bout du truc, et premier orgasme avec éjaculation, et ma première relation sexuelle... Je suis au lycée, fin de lycée. Ouais, je dois être en terminale avec une fille de mon club de théâtre. Donc on se donne rendez-vous, elle vient chez moi. Et là, avec le stress du tout, mais un stress de folie quoi. Je me dis, ça y est, c'est le moment, tu vas devenir un homme. Elle arrive, moi j'ai préparé un endroit où on peut se faire des câlins. Et puis on avance dans les câlins, on se dessape, on se fait des bisous, on commence à se caresser. Et puis au moment de passer du coup à l'acte de la pénétration, bah il y a tout qui retombe quoi. Donc on essaye, mais sauf qu'avec le stress, ça remonte pas, et puis on arrête le truc. Je dis ouais, si ça commence comme ça à 18 ans, c'est quoi la suite? Donc je le vis pas très bien, et on n'en reparle pas après, ce qui est peut-être un tort. J'ai 18 ans quand, du coup, le meilleur pote de mon père, et ça fait rire mon père quand il fait ça, il me donne sa définition de l'homme. Mais à mes 18 ans, il m'offre une bière, une capote et un filtre à cigarette sur lequel on met des trucs. Et il dit « un homme, ça boit, ça fume, ça baise ». Voilà. Ça, c'est à peu près l'image que j'ai, qu'on me donne, que je n'ai pas réellement, parce que je comprends que c'est aussi une blague. Mais voilà, ça m'a créé une angoisse au sens où j'ai une peur intrinsèque, soit d'être précoce, soit d'être impuissant. Enfin, tu comprends bien qu'un mec impuissant, c'est un peu une sous-merde, quoi. J'ai compris à un moment qu'en fait, il fallait que je me détende, que ça va se faire. Puis de toute façon, c'est pas un problème d'impuissance, puisque quand je me masturbe, elle est là, elle est dure, elle répond, tu vois. Ce que je connais de comment on donne une plaisir à une femme à cette époque-là, essentiellement, mon cours de biologie m'explique que la source du plaisir, c'est le point G et le clitoris. D'ailleurs, je crois même qu'il y a une confusion entre le fait que le point G est noté comme source du plaisir Le clito, c'est un petit point vague sur une sur un livre de biologie. Donc t'as pas, voilà, ta compagne, elle va avoir du plaisir si tu viens stimuler ces zones-là, mais pas plus que ça. Ce qui va dire m'aider, il y a les films du dimanche soir. M6, il est 23h minuit. Et donc, il y a des films interdits aux moins de 16 ans où les gens ont des rapports sexuels, mais c'est plus doux dans le tournage. Il y a un rapport au plaisir et pas juste la performance de je la prends comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je me doute bien qu'il y a plus que la pénétration, mais quand même, ça prend quand même souvent le dessus. En tant que mec, je pense que le point G, c'est le truc. Waouh, le point, le marqueur, l'endroit où tout va se passer. Et en fait, on perd un temps phénoménal à essayer de chercher ce point G. Comme c'est noté en plus sur les manuels à cette époque-là, à l'intérieur, ben, quelque part, tu vas peut-être même faire mal à ta partenaire à essayer de le chercher. On se dit, il faut que j'aille le chercher, donc il faut que je pénètre. Ça va stimuler le point G, elle va avoir un orgasme et ce sera cool. Il nous faut une autoroute vers le plaisir, tu vois. Il faut qu'on pénètre, il faut qu'on aille faire plaisir à notre compagne de la manière la plus efficace possible. Et ce qui amène, du coup, à moi, une grosse claque phénoménale où la première fois où je dis à une femme tu prends du plaisir avec moi, t'as des orgasmes, machin. Et elle me dit, non. Quoi, pardon? Comment ça? Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, qu'on couche ensemble quasiment tous les week-ends et tout, et là tu m'expliques que t'as jamais eu d'orgasme, je t'ai jamais fait monter au plafond. Elle me fait, j'ai du plaisir, mais voilà, y a pas le... ça va pas plus loin. Donc là, grosse claque dans la tronche, quoi. Je me dis, non, là, je m'y prends mal, il y a autre chose, faut que je fasse les choses différemment. J'ai 20, 21 ans, ouais. Moi, j'ai l'ego, il est tellement dans les choux, je me dis, il faut que je le remonte. Et je dis, non, là, c'est pas possible. On peut pas continuer notre relation si je suis pas capable de te faire plaisir. Donc, on repart sur des ébats qui sont complètement différents et où là, il y a beaucoup plus de caresses, beaucoup plus de baisers. Et là, du coup, de l'avoir changé de bruit, de mouvement, tu te dis, là, je fais un truc et elle aime bien, c'est pas pareil. Et t'accentues, et puis l'explosion, et puis après ça retombe, et tu dis, ah oui, ok, d'accord, là c'est comme ça en fait. J'ai envie de lui faire plaisir, et si je fais pas plaisir, mon ego en prend un coup. Si j'avais pas posé la question, je pense pas qu'elle me l'aurait dit, ou alors elle me l'aurait dit peut-être bien plus tard. On est jeune, on discute pas, et je pense que dans ma génération, née dans les années 80, on n'a pas vraiment de discussion entre nous. On ne sait pas parler de ces trucs-là. Et ça fait un peu tabou, presque. On ne vient pas chercher en lui disant « Au fait, quand je te caresse les testicules, ça te fait du bien ou pas du tout ?» Le clitoris, je sais que ça existe, je sais que ça donne du plaisir, donc je vais quand même le chercher. Voilà, même si c'est pas dans les proportions qui font que on monte à l'orgasme ou quoi. Mais je me souviens aussi que la première fois que j'ai donc la main dans la culotte de ma partenaire à la caresser, c'est pas exactement là où je m'attendais que c'était. Et alors quand je change de partenaire, je vois vite que c'est pas du tout pareil. On n'est pas du tout sur la même configuration physique. Et quand je rechange de partenaire, ça a encore changé. Et ça déstabilise toujours un petit peu. Le livre, c'était bien droit, c'était là, machin. Et puis là, il y a un petit bout de peau qui gêne un peu. Là, il y a ça. Là, en fait, c'est plus bombé. Là, il y a ce truc-là. Puis là, quand j'ai changé, en fait, la lèvre, elle est plus marquée. Là, il y avait ça. C'est des tâtonnements, quoi. T'as la main dedans et t'es là, tu t'embrasses la personne, tu la caresses, et en même temps, c'est où, c'est là, c'est pas là, c'est là. Et jusqu'à ce qu'il y ait un petit « Ah, et ah, ah oui, ah, c'est là ». Il n'y a pas de manuel qui t'explique comment le toucher. Donc c'est au feeling, et c'est à l'écoute. C'est la personne aime bien quand je fais ça, oui. La personne, est-ce qu'elle aime plus si je fais des ronds, si je fais des 8, si je touche, si je chatouille, si j'appuie dessus. Là, ça va changer en plus, ça va changer de tout au tout, à chaque personne. Je pense que j'ai des déclics à chaque partenaire. Un peu comme un gros jeu vidéo où tu montes en niveau à chaque truc. Il y a ce côté où j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un espèce de film. Un film dont vous êtes le héros, tu vois. Tout ce que tu apprends te sert pour après. Et donc ouais, tu as une espèce de petite montée en niveau à chaque fois. Et quand tu changes de partenaire, ça te permet de vérifier, entre guillemets, que l'expérience accumulée, ben, elle va apporter ses fruits, tu vois. Tu arrives et tu es un peu mieux équipé. Et ça, je pense que ça a joué sur ma partenaire actuelle avec qui je partage ma vie depuis maintenant une dizaine d'années.
Je m'appelle Guillaume, je suis originaire de Bordeaux et j'ai été pompier pendant 18 ans et depuis 2 ans maintenant je fais de la formation pour adultes. Alors ma sexualité a commencé, je dirais, en arrivant au collège. Il y avait une fille, Stéphanie, je pensais au sexe avec elle. À l'époque je savais même pas ce que c'était le sexe, mais je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux quoi. Je regardais les émissions à la télé, Hélène et les garçons, tous ces trucs. Et voilà, je sentais bien que pour être un homme, bah, il fallait conquérir une femme, quoi. Alors, les revues pornographiques du collège, je crois que je les ai trouvées. Il y avait un endroit où on allait faire des tags dans une usine et il y avait des trucs qui traînaient. Et je les avais ramenés chez moi, je les avais feuilletés et j'avais trouvé ça trop beau, quoi. C'est marrant, le premier truc, c'est des beaux mecs, des belles filles. J'aimais bien les scènes qui étaient autour du sport, autour de la salle de sport, des tenues moulantes. Ouais, il y avait quelque chose comme ça de, je sais pas, la transpiration, le fait que ce soit quelque chose de... ouais, une performance, ouais, c'est ça. Il y avait pas de tendresse dans les relations que j'imaginais avec les femmes. C'était tout de suite des relations charnelles, quoi. Au lycée, il y avait une fille, une belle rouquine. Un jour, ça y est, on s'embrasse. Donc, j'étais super content et tout. Et puis, elle me quitte le lendemain ou 2 jours après. Sans m'expliquer ce qui se passe, rien. Et puis après, j'apprends qu'elle voulait sortir avec mon meilleur pote, Mehdi, l'Iranien, beau gosse de service. Donc, à ce moment-là, je me dis... pas dans le game quoi. Physiquement, j'étais petit, comme je suis encore aujourd'hui, un petit 1m68, pas très costaud, bouton, appareil dentaire. Ouais, non, j'étais pas très. En tout cas, l'année d'après, je me suis inscrit dans une salle de musculation. Et là, j'ai commencé à être un peu plus costaud, et donc du coup, je pense inconsciemment à m'affirmer un peu plus. C'était le fait d'être gros, de prendre de la place, quoi. C'est ça. Je me disais, putain, c'est comme ça qu'on est un homme, quoi. Et c'est là que j'ai eu ma première fois. J'étais en terminale. J'avais emprunté la voiture de mes parents. On part à la plage. Et par contre, j'ai aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai utilisé 3 capotes. Les 3 capotes, je sais pas si... À chaque fois, j'avais joui. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'étais hyper content le lendemain et j'étais fier de moi. Bon, je regardais des livres porno, mais j'avais quand même commencé à regarder quelques films. Et dans les films, le mec, il fallait qu'il dure. Et puis, bah, c'était mon cas, quoi. J'étais pas quelqu'un qui était sûr de lui. Mes résultats scolaires étaient plus que moyens. À chaque fois, on me marquait « peut mieux faire ». Donc, enfin, j'avais trouvé un truc... où j'étais performant. Donc la vie était bien partie. Donc après, je suis parti à la fac. Je suis sorti avec des filles. Au lit, c'était toujours bien. J'ai eu ma première copine officielle. Tout allait bien. Je faisais une école pour devenir donc officier chez les pompiers. Et ensuite, c'est là que ça s'est un petit peu dégradé, on va dire. Pendant mon service, donc c'était chez les pompiers... Je me rappelle très bien d'une soirée où on a pris un apéro. J'ai été invité dans la chambre de mecs qui étaient un peu plus anciens. Et surtout, en fait, je les entendais parler et ces mecs, ils avaient de la bouteille chez les pompiers. Et là, je me rends compte qu'en fait, chez les pompiers, bah, les mecs, pour un rapport sexuel, ils disent piner. Donc, chez les pompiers, ça pinait beaucoup. J'apprends qu'il y a le bal du 14 juillet, qu'il y a des filles qui viennent juste pour avoir un rapport sexuel avec eux, qu'il y en a même des fois, ils sont plusieurs sur elles. Enfin. Et puis là, je me rends compte que, parce que bon, j'avais commencé à passer à autre chose au niveau de la pornographie, et je commence à me rendre compte que ce que je voyais dans les films, bah, ça se passait dans les casernes, en vrai. Et je me rappelle toujours, je crois que c'était la première fois que je parlais avec un mec, vraiment de qu'est-ce qui se passe quand t'es au lit avec une fille. Et le mec, alors c'était un ancien pompier de Paris. Je me rappelle, on avait la douche qui était dans la chambre. Il sort de la douche à poil. Le gars, c'était un Big Jim. Les épaules, les pecs, les abdos dessinés. En plus, il avait une bite énorme. Et là, je fais, waouh, où est-ce que je suis tombé? Et le gars, il dit, oh, bah, ça va être mieux qu'à Paris ici. Et je dis, ah, bah, ouais. Donc, il y avait vraiment ce mythe du pompier performant au lit qui était là-dedans. Et le problème, c'est que, bah, j'étais pas le gars populaire, en fait, avec ces mecs-là. J'étais pas grand, j'avais pas de cheveux. Et en fait, chez les pompiers, bah, comme dans tous ces milieux d'hommes, on taille beaucoup. Donc, le petit chauve, alors en plus, j'étais pas gros, hein, mais quand on voit pas tes tablettes, t'es un gros sac. Quand les mecs ils sortent en soirée, c'est la chasse, quoi. Et puis après, quand le lendemain ils en parlent, ah machin, il a chopé la blonde là, bah dis donc, machin. Et en fait, il est valorisé par les autres, alors que toi, bah déjà t'es pas sorti, donc le lendemain t'es pas valorisé. Et le seul truc sur lequel on parle de toi, c'est bah t'as reculé dans un poteau ou t'as fait tomber un tuyau pendant la manœuvre. Ou et en fait, ce monde, il se valorise autour des mecs bah, qui bah, sont forts en sport, sont forts en manœuvre, sont forts chez les pompiers. Et des fois même, ils ont même pas besoin d'être forts chez les pompiers à partir du moment où ils prennent l'apéro ou alors qu'ils connaissent des filles. Alors que toi, quand tu vas pas en soirée, bah, t'es dans la case des losers, quoi, des mecs qui... voilà. Et tu fais même honte. T'as des mecs qui vont dire, mais lui, c'est pas un vrai pompier. J'ai honte qu'il ait un uniforme, ce mec. Donc du coup, ma confiance en moi avait descendu par rapport à ça. Je rentrais pas dans le moule, en fait. Ensuite, je suis rentré pompier pro et j'ai fait les classes. Donc pendant 4 mois, on fait l'instruction. Et pendant les classes, c'est là que je rencontre ma première femme. Je la trouve pas spécialement belle. Elle me plaisait pas. Son visage me plaisait pas. Mais je me disais, de toute façon, tu pourras pas ramener mieux. Et donc, je suis resté 9 ans avec elle. Je me suis marié et 6 mois après, je la quittais. Alors, je la quitte au bout de 9 ans parce que bah, sexuellement, ça allait plus. On le faisait de moins en moins souvent et ça avait un rapport aussi avec le fait que bah, moi, je durais hyper longtemps. Souvent, elle me disait, mais tu veux pas qu'on fasse juste un petit coup, un quickie, elle appelait ça. Mais sauf que moi, c'était impossible. Parce qu'en fait, moi, ça durait 45 minutes, une heure à chaque fois. Je pouvais pas jouir tout de suite, quoi. Et puis en plus, je prenais mon pied, quoi. J'aimais bien, voilà. Donc je faisais comme dans les films, je faisais toutes les positions. Je me rappelle d'un jour. En même temps, j'étais prof de roller dans un skatepark. Et je me rappelle, il y avait un gars, il était CRS. Et je lui avais expliqué qu'une nana, je pouvais lui faire un 360 sans sortir d'elle. Je suis sur elle. Je la fais tourner, comme un poulet dans un four, par exemple. et en fait, voilà, je lui fais passer une jambe, tac, 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 et je lui fais faire un tour complet. Et je me rappelle que le gars m'avait demandé comment je faisais ça. Et je me rappelle, devant les autres profs, ben, sur le CRS, j'avais fait les positions, quoi. C'était ridicule quand j'y pense, mais ça avait fait marrer tout le monde. Et lui, il disait, mais je comprends pas comment tu fais et tout. Donc, à ce moment-là, moi, je me valorisais avec mes performances sexuelles, mais concrètement, dans mon couple, c'est pas ça qui marchait, puisque voilà, elle disait que voilà, elle voulait des quickies, et puis à l'époque, je discutais pas du tout de est-ce qu'elle jouissait, est-ce qu'elle avait mal, est-ce que des fois, parce que voilà, quand tu dures 45 minutes, une heure, il y a un moment, ça frotte, quoi. Enfin, et maintenant, avec le recul, je me rends compte que je faisais un tennis, en fait. Je faisais pas l'amour, c'était voilà. Alors si, il y avait la jouissance au bout, mais Et je me rappelle d'un soir, ça a coupé vraiment quelque chose. J'avais envie de lui faire l'amour, je la regarde, je lui caresse le sein comme ça, et elle me regarde, et elle met ses mains sur mon torse, et elle me secoue les pecs comme ça en disant tu crois que ça donne envie ça? Et là, j'étais mal, je dis oh là là, elle m'avait, enfin, pour moi, j'étais humilié quoi. Et à ce moment-là, je comprends rien. Je me dis pas ah peut-être que elle voudrait un peu plus de sensualité, peut-être que je suis un petit peu bourrin. Mais ouais non, à ce moment-là pour moi c'est elle le problème, c'est pas moi. Alors pour moi la bascule, elle a lieu à un moment je me retrouve célibataire et à ce moment-là, j'ai eu des changements d'ordre personnel. J'ai perdu mon frère, je me suis beaucoup interrogé sur ma vie. Alors, en aparté, mon frère, c'est quelqu'un qui était handicapé, qui buvait et donc que je considérais très mal. Pour moi, c'était un alcoolique. Et le jour, en fait, de son enterrement, il y a énormément de monde. On avait pris une petite salle parce que, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, les gens sont venus de son centre d'aide par le travail. Et ils sont venus en bus, quoi. Ils ont ouvert une grande salle. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais toi, qui est-ce qu'il y aura à ton enterrement? Et puis surtout, je me suis interrogé sur qui était mon frère et je me suis rendu compte que malgré son handicap, malgré son alcoolisme, c'était quelqu'un qui était hyper humain et qui était proche des gens. Et en fait, là, il y a eu vraiment un changement de paradigme dans ma tête où je me suis dit, mais ta vie tourne autour de quoi, en fait? Et je me rendais compte que pour l'instant, ma vie, elle tournait autour d'avoir une femme et des enfants. En fait, c'était ça le but de ma vie. Mais bon, je rencontrais pas les bonnes personnes, ça a jamais allé, j'étais insatisfait et je savais pas pourquoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais complètement à côté des gens, en fait. À côté de mes amis, à côté de ma famille, à côté même des femmes avec qui j'étais. Je développais pas de relation, en fait. J'avais aucun lien avec les gens. Là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai commencé une thérapie. Et en fait, à ce moment-là, moi qui ai toujours voulu être avec des belles femmes et qui suis jamais arrivé, à ce moment-là, il y a des belles femmes qui sont venues à moi. Je rencontre donc une fille avec qui je vais rester 3 ans et demi, 12 ans de moins que moi. Elle était grande, elle faisait 1m75, donc plus grande que moi, et puis surtout un avion de chasse. Une beauté, une fille super belle. Et là, je me dis, c'est bon, t'es le roi du pétrole, quoi. Sauf qu'avec cette fille, niveau sexe, ça n'a jamais marché. Et pourtant, j'avais envie de rester avec elle. Je me suis rendu compte que... qu'au bout de ma queue, il y avait quelqu'un, en fait, quand je faisais l'amour. Et que cette personne, c'est pas parce que je faisais des allers-retours, des positions acrobatiques, que je durais une heure, que ça allait lui suffire pour jouir, quoi. Et donc, même si ça se passait pas bien, j'ai été beaucoup plus attentif. C'est-à-dire que, chose que avant c'était impensable pour moi, des fois on s'arrêtait au milieu, quoi. Parce que je voyais à son visage que, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout, oh, ça va pas, non, mais on continue. J'ai dit, non, mais si ça va pas, on arrête. Et on arrêtait et on discutait. On a énormément discuté, autour de tout ça. Et du coup, ça a été vraiment un soulagement. C'est un soulagement parce que, voilà, je me suis construit dans le terme de le sexe, c'est de la performance. C'est il faut assurer, il faut bander, il faut faire jouir, il faut durer. Et là, je me rendais compte que non, des fois ça pouvait s'arrêter avant, des fois ça pouvait ne pas plaire à l'autre. Et puis sortir de cette obligation d'être épanoui sexuellement dans un couple, ça enlève un poids de fou, quoi. C'était vraiment la première fois que j'imaginais une relation sans sexe. Et donc, mon ultime prise de conscience, ça a été l'année dernière. Je me renseigne un peu par rapport au porno. J'en avais marre de regarder du porno parce que, j'ai vu des documentaires, la pornocratie notamment, enfin des choses comme ça, où je me rends compte que c'est beaucoup d'exploitation des femmes. Et puis, surtout que il manquait du lien. Et ça, c'est ma compagne actuelle qui a mis le doigt dessus. Des fois, on faisait l'amour et elle me dit « mais là, t'es pas là ». Pendant que je le faisais, je pouvais avoir des images qui revenaient ou justement des images de films. Et on a réussi à en parler. Et le fait d'être connecté, voilà, enfin, quand je fais l'amour maintenant et que je suis vraiment dans la conscience de ce que je fais, de, eh ben, il n'y a plus aucune autre image qui vienne. Je suis dans le truc et à ce moment-là, voilà, j'ai pris du plaisir comme j'en ai jamais pris avant. Donc c'est des fois c'est difficile et il faut se remettre en question, mais enfin, je suis bien content d'avoir fait cette bascule. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est un changement qui est hyper global. Je remets en question mon mode de relation avec les gens, quoi. Le fait d'être plus ouvert, de plus discuter avec les gens, de plus essayer d'aller à la rencontre des gens, ça m'a ouvert, par exemple, à des idées féministes. Je remets en question mon mode de vie, mon mode de consommation. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sexe, mais voilà, je suis devenu végétarien, je prends des douches froides, j'utilise plus les GAFA, enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui ont changé chez moi grâce à ça. C'est quelque chose de plus lent. Et si on peut le ramener au sexe, voilà, c'est pareil. Quand je fais l'amour maintenant, je suis plus dans les caresses, plus dans le ressenti, plus dans le dans ce que ça me fait au niveau des contacts. Voilà. Et ça, c'est des choses que que la pornographie gomme complètement. Par exemple, voilà, vous avez deux personnes qui font l'amour, on va pas filmer leurs mains, on va pas filmer leur visage, on va pas, voilà, vous avez juste des gros plans sur les sexes et donc c'est voilà, c'est un apprentissage que j'ai fait au fur et à mesure et je pense que le porno m'a fait perdre 20 ans de ma vie. 25 ans même. 30 ans. Trop de temps.
C'était Des hommes à la découverte du plaisir féminin, 8e épisode de notre podcast Dernières nouvelles du sexe, un reportage d'Élodie Font et Sophie Simoneau, réalisé par Somaya Dabège en partenariat avec Libération. Je précise qu'une version de l'histoire de Guillaume a déjà été diffusée dans un autre épisode des Pieds sur Terre, intitulé Regarde les hommes changer et signé Sophie Simoneau. Merci à elle, à Jordan, à Guillaume, à Armel Andro, toujours. Contexte des sexualités en France est une enquête scientifique sous la direction d'Armel Andro, Nathalie Bajos, Caroline Moreau, pour la NRS, par l'INSERM, avec Santé publique France. Valentin Rémy, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre. Inès Bouffartic, Sébastien, c'est notre stagiaire. Ils sont formidables. Merci aussi pour cet épisode. Ne pas l'oublier, à June. Ce serait toujours dur pour toi quand même. Moi je joue les chanteurs, souvent maladroitement. Comme Jean Mineur, toi tu crèves les crans. Dans les yeux, on pourrait faire un peu mieux. J'ai plus peur de la mort, d'assumer la métaphore. Je vais prendre mon temps, avaler mes sentiments. C'est dur comme de l'acier. J'ai plus peur d'essayer d'être un avis, j'ai plus peur des choix. Maintenant j'assume mes idées, j'ai plus peur de toi. Plus peur d'être tout seul ce soir, on dort chez toi. J'ai même plus de coups de gueule quand je suis dans tes bras. J'ai plus peur de faire ce qu'on attend de moi. J'ai plus peur de perdre, de devenir un roi. J'ai plus peur, et merde, je crois que j'ai trouvé ma voie. Ma vie pour une fois ne dépend pas de toi. Pas besoin de toi, mais je suis bien avec toi. Mais si tu veux dans les yeux.